Tranche de coupe saison 5,
30 minutes d'actu,
de coups de cœur,
de notre vie
et de nos sorties
par Guillaume
et Max. Bonjour, bonsoir, nous sommes
Guillaume
et Max et on est ravis de vous retrouver pour ce 17e épisode de la saison 5 de Tranche de couple, notre traditionnel
Euro-podcast. Alors merci à toutes et à tous pour votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode pour nous aider à rester visibles et à nous encourager à vous le proposer toujours avec une régularité digne d'une montre suisse au moins, puisqu'on va parler de l'Union européenne, ça tombe bien, tiens. Max, premier sujet d'actu, tu vas nous expliquer qu'est-ce qui va se passer au sein de l'Union européenne dans les 6 prochains mois.
Exactement, comme tous les 5 ans, un grand chamboule-tout se prépare à l'échelle de l'Union européenne.
Et non, on ne va pas vous parler du Spitzenkandidat.
Peut-être que Guillaume y reviendra plus tard. Alors, 5 ans, pourquoi tous les 5 ans? Parce que 5 ans, c'est la durée du mandat de la Commission européenne, mais aussi du Parlement européen. Donc, après les élections du 6 au 9 juin 2024, de nouveaux députés seront élus, de nouveaux députés européens, pour une durée donc de 5 ans. Et dans les mois qui suivront, un nouveau collège des commissaires, donc l'exécutif au niveau de l'Union européenne, sera mis en place, on le rappelle, avec un commissaire par État membre, donc 27 commissaires. Alors aujourd'hui, on se propose, dans cet Euro-podcast, de revenir sur la manière dont les choses vont se dérouler après les élections, parce que c'est un petit peu compliqué pour des gens qui sont peut-être pas les yeux rivés dedans. On voit pas forcément quel est nécessairement le lien entre le Parlement, la Commission, les grands postes à l'échelle de l'Union européenne, donc on vous propose de refaire un petit déroulé. Donc, comme je le disais, les élections, elles se tiendront dans toute l'Union du 6 au 9 juin 2024, ce qui fait que dès le lundi 10 juin, eh bien, les nouveaux députés européens prendront leurs fonctions et on aura une idée de la répartition des groupes politiques au sein du Parlement européen. Alors, c'est important parce que ça donnera la tonalité des orientations du Parlement européen, finalement les équilibres entre les différents groupes. Et vous le savez, on vous l'a dit à plusieurs reprises, le Parlement européen, eh bien, c'est le co-législateur, c'est-à-dire que pour qu'une proposition de loi faite par la Commission soit adoptée, il faut qu'elle soit validée dans les mêmes termes par le Conseil, c'est-à-dire les États membres, et par le Parlement, c'est-à-dire les députés. Et donc, les équilibres politiques au sein du Parlement européen, ça compte. Dans chaque groupe politique, il y aura une élection des présidents, vice-présidents et les différents postes. Et puis les tractations commenceront également en vue de se répartir la présidence des différentes commissions parlementaires. Alors ça, c'est pour le Parlement. Et bien sûr, pour le Parlement, il y a aussi l'élection du président du Parlement européen. Et donc ça, c'est un des grands postes de l'Union qui sont répartis tous les 5 ans. Alors du côté du Conseil, donc des États membres, il y aura une première réunion informelle des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra après l'élection le 17 juin, qui permettra un petit peu de faire le point. Et elle sera logiquement principalement consacrée à la répartition entre les différents groupes politiques des grands postes à responsabilité dans l'Union. Hein, donc par tradition, il y a une espèce de répartition, groupes socialistes, groupes libéraux, les centristes, voilà. Donc il y a une espèce de répartition de ces grands postes pour les 5 prochaines années. Alors, donc ces grands postes, c'est le poste de président de la Commission européenne, le poste de haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité, le poste de président du Conseil européen, et le poste de président de la Banque Centrale Européenne. Alors, c'est quelques semaines plus tard, 2 semaines plus tard, lors du Conseil européen des 27 et 28 juin, que seront annoncés les noms de chacun de ces postes principaux. Et donc, on aura le nom de la ou du candidat du Conseil pour présider la Commission européenne. Donc, ça pourrait être Ursula von der Leyen, comme ça pourrait être quelqu'un d'autre. On se rappelle que la dernière fois, finalement Ursula qui était arrivée un petit peu en dernière. On ne l'attendait pas, effectivement, puisque le Spitzenkandidat, j'ai réussi à le placer, c'est-à-dire le candidat du parti majoritaire, du parti populaire européen, le PPE, et Manfred Weber avait été refusé par les États qui avaient donc décidé de ne pas le choisir. Et c'est ainsi que est arrivée Ursula, la candidate allemande.
Souvenons donc, Manfred Weber avait effectivement un certain nombre de casseroles qu'il traînait derrière lui à l'époque.
Voilà, mais comme il était de nationalité allemande, bah du coup, il y a eu un peu, on a trouvé un candidat de remplacement allemand. Ce qui n'était pas gagné, d'ailleurs.
Comme la couronne d'Angleterre, vous avez The Heir et vous avez The Spare. Hein, Ursula, c'est un peu The Spare, en fait. Pardon, c'était la minute philosophique.
Alors, je reviens. Donc, on a la nomination du candidat du Conseil pour la présidence de la Commission européenne. On parle de PECOM, dans le jargon bruxellois, PECOM. Et donc, finalement, ce président désigné, il a quelques semaines pendant l'été pour se préparer. Et mi-septembre, en toute logique, eh bien, il devra faire son discours de politique générale devant le Parlement européen réuni en session plénière à Strasbourg. Et à l'issue duquel il y aura d'une part un vote formel qui validera ou non l'élection du président de la Commission, et d'autre part une prise de parole des présidents des différents groupes au Parlement européen qui s'exprimeront sur le discours de politique générale et qui, du coup, donneront, eux, leur position sur les différents sujets que la présidente ou la présidente de la Commission aura traités, et puis sur les orientations qu'elle aura proposées, pour dire si elle est d'accord ou pas d'accord. Et donc là, on verra aussi les équilibres sur les différents sujets. Alors, l'équilibre entre les différents groupes parlementaires au Parlement européen aura donc une incidence sur les orientations que proposera le président désigné de la Commission, puisque celui-ci ou celle-ci souhaitera rechercher une majorité la plus large possible. Et c'est ainsi que, par exemple, lors de la dernière mandature, eh bien, le Green Deal était devenu un des chantiers majeurs pour la Commission présidée par Ursula von der Leyen, puisque les Verts avaient fait une percée assez historique lors de la dernière élection. Alors, une fois que le président de la Commission est élu, on parle du coup de président élu, aux États-Unis, president-elect, eh bien, c'est là que les tractations commencent avec les États, donc entre le président de la Commission élu et les États, pour se répartir finalement les portefeuilles des commissaires. Parce qu'il y en a 27, mais ensuite, il revient au président de la Commission de décider quels seront les différents portefeuilles et puis de choisir finalement un candidat, un commissaire pour chacun de ces portefeuilles. Alors les États doivent en général présenter plusieurs candidats de manière à laisser le choix au président de la Commission de décider. Et puis il y a toujours, vous le savez, les équilibres hommes-femmes et donc on s'attend à ce que chaque État doive au moins présenter un homme et une femme pour laisser finalement la présidente ou le président choisir. Ils peuvent aussi exprimer des préférences sur les portefeuilles. Parfois, ils sélectionnent certains profils qui sont, on va dire, orientés pour tel ou tel portefeuille. Mais naturellement, ça reste un équilibre politique qui sera décidé par le président désigné. Alors, une fois que tous les commissaires ont été désignés par le président de la Commission, donc il y a une espèce de liste de commissaires désignés, chacun va être auditionné par la commission parlementaire qui est compétente pour son portefeuille, ou les commissions parlementaires s'il a un portefeuille qui est plus vaste qu'une seule commission parlementaire européenne. Il est auditionné, il ou elle est auditionné, et puis à l'issue, il y a des questions-réponses. Ça peut être assez touchy, ça peut aller dans le détail. Et à la fin, il y a un vote pour confirmer le commissaire désigné. Et ce n'est pas vraiment une formalité, puisque à plusieurs reprises, il y a eu des commissaires désignés qui n'ont pas été confirmés, ce qui a conduit ensuite à des changements de candidats nationaux, et le cas échéant avec une réarticulation des portefeuilles, parce que le nouveau candidat ne correspond pas, et peut-être pas assez « lourd » entre guillemets, sur les sujets qui avaient été initialement envisagés. Et à nouveau, du coup, l'équilibre des groupes politiques dans le Parlement européen au sein de chaque commission parlementaire pourra jouer un rôle important pour, par exemple, rejeter tel ou tel candidat. Donc ces auditions, devraient se dérouler entre octobre et novembre. Et puis, décembre, c'est un petit peu la phase finale. Le 1er décembre, c'est la prise de fonction du nouveau président du Conseil européen. Donc Charles Michel terminera son mandat. Et on a un président du Conseil européen qui est le seul parmi tous ceux que j'ai cités qui est élu seulement pour 2 ans et demi. Donc il fait un demi-mandat du reste, mais il peut être renouvelé une fois. Donc il peut faire 5 ans, comme ça a été le cas pour Charles Michel. Alors par la suite, une fois que chaque commissaire désigné a été auditionné et confirmé, eh bien vient le moment de l'investiture formelle du nouveau collège des commissaires par le Parlement en session plénière. Et là, pour le coup, ça n'est qu'une formalité. Alors, tout ça, ça veut dire que la nouvelle équipe de la Commission européenne ne commencera vraiment à travailler que début 2025. Et donc, durant 6 mois après les élections européennes, on a un certain flottement. Mais bon, c'est la manière dont, au niveau de l'Union européenne, on arrive à définir ces nouveaux équilibres pour travailler ensemble et essayer de faire avancer les choses dans les 5 prochaines années. Avec une influence non négligeable, vous l'aurez compris, du Parlement européen, ce qui fait une transition idéale vers le prochain sujet que Guillaume va aborder dans cette rubrique d'actu. Eh ben, c'est finalement ces élections européennes et les députés européens. Guillaume, à toi la parole.
Merci Max. Bah oui, c'est un Europodcast particulier à quelques semaines des élections européennes pendant lesquelles les citoyens européens seront appelés aux urnes pour désigner les 720 membres du Parlement. Alors, les débats actuels en France ne donnent pas vraiment l'impression que ces élections ont une valeur européenne, mais plutôt qu'il s'agit d'une mid-term à la française pour sanctionner ou approuver le gouvernement actuel, sport favori de très nombreux partis d'opposition, à commencer par les extrêmes gauches et droites. En France, c'est la seule élection d'envergure avant la prochaine présidentielle en 2027. C'est un scrutin de liste nationale, donc la tentation est forte de nationaliser le scrutin, nous rappelle Éric Meurice du European Policy Center, centre européen de politique. Pour rappel, le mode de scrutin des élections européennes, donc comme l'a dit, décrit déjà en partie Max, est celui du suffrage universel direct à un tour, candidat élu pour 5 ans, selon les règles de la représentation proportionnelle à scrutin de liste la plus forte moyenne. Les listes qui ont obtenu plus de 5% des suffrages remportent un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix. Les listes sont nationales, elles ont été même régionales en France, il y avait 8 circonscriptions jusqu'en 2014. Et près de 49,2 millions d'électeurs français sont appelés à élire 81 des 720 députés européens au Parlement européen, soit 2 de plus par rapport à 2019. Il y a régulièrement des mises à jour sur les nombres de députés attribués à chaque pays, le plus petit nombre étant 6 pour notamment Malte, le Luxembourg, et le plus grand autour de 96, je crois, de mémoire, pour l'Allemagne.
Et pourquoi ça a changé? Parce qu'y a eu des évolutions démographiques, et donc y aura un nombre plus élevé de députés cette fois-ci.
Tout à fait. Mais quels sont les enjeux relevés par les Européens pour ces élections? Selon l'Eurobaromètre du printemps 2024, repris par le très bon site internet touteleurope.eu, les principaux enjeux sont, dans l'ordre, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, la santé publique, le soutien à l'économie et à la création d'emplois, la défense et la sécurité de l'Union européenne, la lutte contre le réchauffement climatique, l'avenir de l'Europe, la migration et l'asile, la démocratie et l'état de droit, la politique agricole commune, etc. etc. Dixième en 2019, la sécurité est donc passée à la 4e place, signe des temps et de l'importance que donnent les citoyens européens à l'action de l'Union européenne, en matière notamment dans la continuité de la guerre en Ukraine ou de l'instabilité au Moyen-Orient. La lutte contre le changement climatique reste relativement stable, 5e position contre 4e en 2019, principalement portée par les jeunes générations. L'immigration, quant à elle, qui paraît être le point central si on écoute les médias en France et les politiques de tous bords qui surfent sur la vague populiste, chute pourtant de la 3e à la 7e place. Signe que ce qui se passe et se dit en France n'est pas ce qui se passe, se dit en Europe, et encore moins ce qui se fait. Et d'ailleurs, même les résultats de l'Eurobaromètre pour la France uniquement montrent que l'enjeu le plus cité en vue des élections européennes est la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, 42%, devant la lutte contre le changement climatique, 37%, et la santé publique, 36%. D'ailleurs, même le très à droite journal L'Opinion, dans un article consacré aux enjeux de la sécurité de ces élections européennes, ne place pas la gestion des flux migratoires en première position, mais bien en dernière position, après l'instabilité en Ukraine, au Moyen-Orient, le terrorisme et la cybersécurité. Finalement, comme à chaque élection européenne, depuis 20 ans, l'enjeu principal en France, comme dans la plupart des pays européens où le vote n'est pas obligatoire, il l'est par exemple en Belgique ou au Luxembourg, sera l'abstention. En France, le taux le plus important d'abstention date de 2014, 57,46%. Il était en recul en 2019 à seulement 49,88%. Et un article toujours du même Opinion rappelle que les électeurs se sentent éloignés des sujets européens, pensent que leur vote n'aura pas vraiment d'impact sur les décisions, que par ailleurs l'Union européenne représente toujours un sentiment de grande complexité et de bureaucratie, ou devrait-on dire d'eurocratie à Bruxelles, et que l'euroscepticisme gagne du terrain. Tout cela mis ensemble étant l'ensemble de facteurs justement pour expliquer cette abstention. Sauf qu'en réalité, l'abstention aux élections européennes n'est pas une exception. Les autres élections françaises, excepté les élections présidentielles, sont également victimes de cette abstention. Élections législatives, élections municipales, toutes au cours des 20 dernières années ont vu le taux de participation baisser. Dans un entretien à Presse Océan, Arnaud Leclerc, professeur de sciences politiques à l'Université de Nantes, rapporte « Ce qui m'ennuie, c'est que quand on parle d'Europe, on le fait sous l'angle des institutions et de ce qui se passe entre Bruxelles et Paris, alors qu'on devrait le faire par le bas. Notre quotidien, notre argent, les projets menés en local, la plupart de ces sujets mobilisent de l'argent européen. L'Europe est là, dans nos vies, mais on ne la montre pas, on ne la voit pas. Et pourtant, on doit le rappeler, dans notre nourriture, dans notre culture et dans nos infrastructures, l'Union européenne est bien présente et une grande partie de l'argent investi vient des fonds de l'Union européenne. » Donc s'il n'y avait qu'une seule info à retenir de cette actu, le 9 juin, je vote. Et à titre personnel, j'ai même décidé de ne plus voter en Belgique pour les élections européennes. J'en avais la possibilité. En tant que résident en Belgique, en tout cas, j'ai le choix de voter soit en Belgique, soit en France. Et bien cette année, j'ai décidé de revoter pour les listes françaises. J'aurai donc le plaisir de me déplacer avec Max au Hesel pour voter le 9 juin aux élections européennes.
Exactement, et je crois que le dernier point que tu mentionnais avant d'inviter nos auditeurs à aller voter, c'est qu'effectivement, on n'en a pas beaucoup l'impression, et peut-être qu'il faut qu'on arrive à faire davantage de communication, mais les grands programmes européens d'infrastructure, de culture et tout ça, ça a un impact réel et très concret sur nos vies. Soyez aussi acteurs de ce qui se passe à l'échelle de l'Union européenne, des choix qui sont faits en allant mettre votre vote, quel que soit ce que vous voterez, ça vous regarde, mais on vous invite à la démocratie, on est très fiers d'avoir la possibilité de s'exprimer, alors que dans beaucoup de pays du monde, c'est pas le cas. Alors, honorons cette chance que l'on a et allons voter, again, quel que soit votre vote. Alors, on voulait juste faire une petite brève aujourd'hui, également pour vous parler un petit clin d'œil au Brexit. Ça tranche. Mmh. Mais ça parle aussi d'Europe, du coup, parce que Donald Tusk, le Premier ministre polonais, s'est fait écho lors de la célébration récemment du 20e anniversaire de l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne, d'un débat qui a lieu au Royaume-Uni, provoqué par les prévisions de la Banque mondiale, selon lesquelles le revenu par habitant sera plus élevé en Pologne qu'au Royaume-Uni en 2025. Et du coup, Tusk de faire la promesse que dans 5 ans, au moment du 25e anniversaire de l'entrée dans l'Union de la Pologne, les Polonais seront plus riches que les Britanniques. Il a conclu en disant que c'était mieux d'être dans l'Union européenne. Voilà, c'était un petit clin d'œil au Brexit. Et on passe tout de suite, Guillaume, au point Belgitude.
Eh oui, et toujours un point Belgitude, Union européenne, dans notre Europodcast d'aujourd'hui. Une information toute fraîche ou presque, on sait que la Commission européenne possède à Bruxelles, et notamment dans le quartier Schuman, rue de la Loi, une des principales artères d'entrée dans la ville, enfin dotée grâce au Covid d'ailleurs d'une piste cyclable à peu près digne de ce nom. Rien à voir, mais c'est pas grave, je voulais placer l'info. un grand nombre de biens immobiliers construits au fur et à mesure des années, et achetés au fur et à mesure des années. Sauf que le Covid, justement, et l'essor du télétravail ont conduit la Commission et ses nombreuses agences et directions à revoir à la baisse les besoins fonciers et à remettre en vente près de 300 000 mètres carrés, soit 23 bâtiments, situés pour la plupart sur cette fameuse artère. La décision de la Commission, on y reviendra après, de se délester d'une partie de son parc immobilier ne surgit pas vraiment de nulle part. L'équipe d'Ursula von der Leyen a prévu de diminuer d'ici 2030 de 25% la surface qu'elle utilise à Bruxelles et de réduire le nombre de bâtiments occupés. Ce processus de rationalisation s'inscrit donc dans un contexte sanitaire qui a favorisé les habitudes de télétravail et est en ligne avec les objectifs du Green Deal. Rachetés par l'État belge via un consortium public-privé pour 900 millions d'euros, ces bâtiments finiront après rénovation en bureaux durables à 70%, commerce, équipements publics et logements à 30%. Ces derniers permettront de doubler à terme le nombre de familles au cœur du quartier européen. Le projet vise à répondre à la forte demande de bureaux et de logements durables dans ce quartier. Et ainsi, approximativement 750 à 800 appartements neufs seront créés. Dès 2028, les premiers nouveaux résidents et occupants de bureaux devraient pouvoir emménager. Voilà par ailleurs plusieurs décennies que les autorités bruxelloises tentaient de faire évoluer le quartier européen. Pour ces dernières, cette séquence présente donc une opportunité, sachant que le quartier européen est considéré, et on peut confirmer que c'est vrai, comme superficiel et absolument mort du vendredi 17h au lundi 8h.
Et oui, ça a été même une sacrée difficulté pendant le Covid, pendant le confinement, et puis même après, parce qu'il y a eu quand même beaucoup plus de gens qui sont restés en télétravail. Et donc, pour les commerces, notamment les commerces de bouche, dans ce quartier, ça a été extrêmement compliqué. Alors, on est revenu à une dynamique au moins pendant les heures de bureau.
Le Covid, c'est quoi le Covid ?
Mais c'est vrai que ce quartier est assez mort, et c'est un peu triste à voir. Quand on va se balader le week-end.
Après, la place du luxe le jeudi soir, c'est un autre délire. Mais...
À la place du Luxembourg, qui est la place devant le Parlement européen à
Réputée
Bruxelles.
Réputée pour ses after-work le jeudi soir avec tous les stagiaires du Parlement. Et nous voilà dans notre rubrique « Vie de couple ».
Oui.
Alors, puisqu'on parle d'Europe, on a décidé de faire un petit calcul. On a un peu laissé de côté notre bilan carbone, on ne va pas vous mentir, pour ce petit calcul, parce qu'on s'est demandé dans combien de pays européens on avait visité tous les deux. Alors,
pas forcément
séparément,
ensemble,
mais dans combien de pays européens on était allés
Mais tous les deux, on y était, c'est-à-dire
ouais,
c'est même, on n'est pas forcément été ensemble.
C'est compliqué.
Mais si par exemple, si moi j'ai déjà été dans un pays, mais que Guillaume n'a jamais été dans ce pays,
on
à ce moment-là, on ne compte pas.
Non, ça ne compte pas.
Bon, alors, c'est quoi le bilan, Guillaume ?
Eh ben, le bilan, c'est qu'on est allé sur 27 pays, dans 16 pays, au cours de nos voyages, la plupart quand même depuis qu'on est ensemble, hein. Un peu qu'on n'a pas fait ensemble, soit une moyenne de 1,1 pays par an en plus. Alors il y a des années un peu plus fastes que d'autres. L'année dernière, par exemple, nous sommes tous les deux allés à la fois à Malte et en Grèce, et ensemble d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est l'Union européenne est un peu dans notre ADN. On est tous les deux aussi passés par le programme phare de l'Union européenne.
Erasmus, bien sûr.
Chacun dans son pays, chacun sa culture, chacun sa langue.
Ouais, c'est ça. Moi, j'étais à Berlin.
Et moi, j'étais à Bologne. C'était bien.
En Italie. Voilà. Et donc, c'est vrai que si on avait compté les pays dans lesquels on avait été tout seul et pas à deux, je pense qu'on se rapprocherait quand même beaucoup plus des 27. Il y a quelques pays dans lesquels on n'a pas aidé. On n'a pas été. Par exemple, les pays dans lesquels on n'a pas été, aucun de nous deux, je pense qu'on a l'Irlande, les pays baltes.
La Finlande. T'es là en Finlande ?
Non, j'ai jamais été en Finlande.
T'as pas une réunion ?
J'ai pas fait la Bulgarie.
Moi, j'ai fait la Bulgarie. T'as fait la Roumanie, toi, par contre ?
J'ai fait la Roumanie. Et puis.
Toi, t'as fait la Croatie.
Ouais, ça, j'ai fait la Croatie. Et j'ai fait Chypre aussi.
Slovaquie, j'y suis jamais allé.
Ah, Slovaquie, j'ai dû faire déjà.
Et Slovénie, j'ai dit ? Je sais plus.
Oh, Slovénie, je sais pas si j'étais. Bref, enfin bon.
Donc il manque pas grand chose, hein, fondamentalement. Hein,
mais ça nous ferait plaisir si voilà, vous nous mettiez un petit message pour nous dire combien de pays de l'Union européenne vous avez fait de votre côté.
Où est-ce que vous aimeriez aller pour vos prochaines vacances aussi, hein ?
Exactement. Et alors, on fait un petit détour par un pays qui n'est pas dans l'Union européenne, mais qui est quand même assez proche de l'Union européenne, la Suisse, pour vous parler. On a fait un petit détour par Genève le week-end dernier, Guillaume.
Ah oui, mais enfin, les détours par Genève, ça compte pas. En fait, on est allé en Suisse pour aller en France.
Exactement.
C'est le principe. J'ai la famille qui habite peu pas loin de la frontière. Donc, le moyen de transport le plus proche, c'est l'aéroport de Genève.
Ça fait un an et demi qu'on n'y avait pas été.
Et donc, effectivement, pour la première fois depuis un an et demi, je suis allé en retour aux sources en Haute-Savoie. Nous sommes allés en retour aux sources en Haute-Savoie pour visiter le nouvel appartement de ma maman. Big up, maman, si tu nous écoutes. Voilà, prendre quelques jours de repos pour moi entre deux projets qui s'enchaînent un peu rapidement. Là, voilà, il y avait quand même ces quatre jours qui tombaient là. Et puis, profiter de la famille, retrouver des amis, retrouver de la famille, y compris un peu plus éloignée, se ressourcer, faire des balades dans les collines, au pied des montagnes, avec des jolies vues sur l'ensemble de la chaîne des Aravis. Alors, il a fait un peu gris. On a atterri à Genève. Il faisait encore pire qu'un temps bruxellois. Genre, il pleuvait, mais il pleuvait, mais il pleuvait. Truc de malade. Et puis, on a quand même eu beau temps les derniers jours où on était sur place. Et puis, naturellement, c'est aussi pour nous l'occasion de faire le plein d'une ressource rare, en tout cas, peut-être pas, mais très chère en Belgique, le fromage. On a ramené pour, je sais pas, 2 ou 3 kilos de fromage, je pense, quelque chose comme ça.
Du bon fromage, du comté, du Beaufort.
De l'abondance. De la tome de chèvre, de la tome de Savoie. Ah ouais, non, on va se faire plaisir, je crois.
Mais ça ne vous empêchera pas de payer le petit péage si vous venez nous voir et de nous rapporter du fromage. Hein.
Vous êtes libre de ne pas le payer hein, non plus. Mais si vous venez avec du fromage et ou des saucissons ou des petits produits
petit
locaux...
Local, quoi.
On est toujours intéressé. Hein. On est très intéressé. On est hyper vénal. On est très, 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 très... très intéressé.
On est très 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 gourmand en fait. On va quand même pas se mentir, on est terrible. Très gourmand.
C'est terrible quand même.
Exactement.
Ah, voilà, bah non, mais notre vie, ça se calme un peu là.
Ça se calme un petit peu. On a refermé un chapitre un petit peu
pénible,
un petit peu emballé de nos vies professionnelles qui avaient pris un peu le pas sur nos vies personnelles. On va pas se mentir. Et donc là, ça se présente un petit peu mieux. Et donc, on sera content de pouvoir profiter, notamment des week-ends un petit peu rallonge de mai. Bon, Guillaume va bosser en partie, mais c'est quand même chouette de pouvoir aussi profiter d'être à Bruxelles. On espère que le temps va continuer à être plutôt bon, mais je crois que Guillaume a vu quelques ouvertures de ce côté-là.
Dernière rubrique, Max, c'est une rubrique geek technologique, toujours liée à l'Union européenne, et tu vas nous parler d'une révolution pour les paiements.
Exactement, je voulais vous parler de Wero, qui est une solution pan-européenne de paiement qui, en gros, rassemble un certain nombre de banques européennes. Donc l'objectif, c'est d'avoir une solution de paiement d'abord entre particuliers, puis entre particuliers et professionnels, qui sera ensuite étendu au paiement en ligne et en magasin. Donc l'idée, c'est d'avoir une infrastructure de paiement instantané qui permettra aux banques de rivaliser avec les solutions de paiement des géants anglo-saxons et puis pour les marchands d'avoir une solution de paiement européenne. Donc en fait, elle s'appuie cette solution sur un certain nombre de solutions nationales qui existaient déjà. Donc par exemple, en Belgique, on a la solution Bancontact et Péconique qui propose à la fois des remboursements ou des paiements entre individus, mais aussi de payer en ligne et de payer à proximité. Enfin, quand vous êtes dans un, par exemple chez notre coiffeur, on flash un QR code et on paye directement sans avoir à sortir une carte bancaire. Et ce qui est super pour les commerçants, c'est que du coup, ils n'ont pas besoin de payer des frais exorbitants pour une machine. Tout ça, ça se fait d'appli bancaire à appli bancaire via des QR codes. Et donc ça, c'est pour la Belgique. Aux Pays-Bas, il y a une solution qui s'appelle Ideal. Et puis, il y a aussi d'autres solutions en Allemagne. En France, il y avait la solution Pélib. Et donc en Allemagne, ça s'appelle Giropay. Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir une plateforme unique pour l'ensemble de l'Union européenne à terme. Vraiment de pouvoir offrir des solutions simplifiées pour payer sans avoir à sortir la traditionnelle carte de crédit Visa ou Mastercard, pour lesquelles, vous le savez, il y a des frais, ou alors Apple Pay ou Android Pay, qui, là encore, il y a des frais, et puis tout ça passe par des infrastructures extérieures à l'Union. Donc l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur une solution avec un QR code, et pour nous, qui en faisons déjà l'expérience au quotidien, c'est extrêmement simple, parce que quand on va sur des sites web marchands, par exemple, on a simplement à scanner le QR code qui figure en fait sur le site avec notre appli de banque, et le paiement est déjà réalisé. Donc vous n'avez plus besoin de rentrer vos numéros de carte bancaire, vous n'avez plus besoin de vous préoccuper de rien, et c'est vraiment en deux minutes c'est fait, et c'est vraiment super efficace. Voilà, donc naturellement, c'est une solution qui est en train de se mettre en place à l'échelle de l'Union. Ça veut dire que ça ne sera pas dans un premier temps chez l'ensemble des pays de l'Union européenne. Mais c'est vraiment une solution qui vise à un petit peu contrecarrer les PayPal, les Venmo, et puis Apple Pay surtout, parce que aujourd'hui, Apple Pay par exemple, c'est vraiment un leader incontesté du paiement. Mais du coup, ça veut dire que nos banques et les infrastructures de paiement, elles ne maîtrisent pas cette partie-là du système. L'objectif, c'est aussi de rester simple. Donc une solution qui ne soit pas compliquée. Et par exemple, quand vous recevez une facture à la maison, pareil, vous pouvez scanner un QR code et hop, la facture elle est réglée. C'est quand même hyper, hyper simple. Et pour le coup, ça offre des choses que Apple Pay, par exemple, ne propose pas. Voilà.
Merci Max. C'est déjà la fin de ce 17e épisode de la saison 5.
Si vous êtes arrivé au bout, bravo et merci. Merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à faire découvrir ce podcast autour de vous, à lui mettre une note, à nous envoyer un message ou un commentaire sur les plateformes, mais aussi sur YouTube, Twitter, Facebook, enfin là où vous nous suivez sur les réseaux et là où vous écoutez notre podcast. Et si vous voulez nous mettre une note, ça nous aidera beaucoup à accroître la visibilité. Et on fait comme tous les gens qui ont un podcast. On vous encourage à nous mettre une note, surtout si vous nous mettez 5 étoiles, parce que c'est ça qui fera la vraie différence.
Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus au taquet / pressés. En principe, ça devrait aller pour cette semaine. Alors, portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches européennes.